Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en anglais sous le titre « Quiet », puis traduit en français sous le titre « La force des discrets ». Cet essai de Susan Cain examine la condition des personnes introverties dans des sociétés qui associent volontiers la valeur sociale à la parole facile, au charisme visible et à la sociabilité permanente. Juriste de formation, Cain mêle recherche en psychologie, histoire culturelle, observation du monde du travail et exemple public pour contester ce biais en faveur de l'extraversion. Son propos ne consiste pas à opposer deux catégories humaines figées ni à déprécier les extravertis. Il vise plutôt à montrer que les dispositions calmes, réfléchies et attentives peuvent produire une contribution essentielle, souvent sous-estimée. Le livre analyse les origines de ce qu'elle appelle le culte de la personnalité, ses effets sur école, entreprise et vie relationnelle, ainsi que les besoins propres aux introvertis. Il propose enfin des pistes pour mieux organiser les environnements collectifs et permettre à chacun de mobiliser ses aptitudes sans devoir imiter un modèle social unique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le culte de la personnalité privilégie la visibilité au détriment de la substance. La thèse structurante du livre est que les sociétés occidentales modernes ont progressivement valorisé un idéal extraverti. La personne jugée désirable est spontanée, persuasive, à aise dans les groupes et capable de rendre immédiatement visible son assurance. Cain distingue cet idéal du caractère, davantage lié à la retenue, à la fiabilité et au sens du devoir. Cette évolution culturelle a des conséquences concrètes. Dans un recrutement, une réunion ou une salle de classe, parler rapidement et fréquemment peut être confondu avec le fait de mieux comprendre un sujet. Or, la présence sociale ne constitue pas une mesure fiable de la compétence, de la créativité ou du jugement. Le livre attire ainsi attention sur un biais de sélection. Les institutions récompensent parfois les comportements les plus faciles à observer plutôt que les contributions les plus solides. Cain ne présente pas introversion comme une supériorité morale. Elle défend une correction de perspective, écouter, préparer, analyser en profondeur et agir avec prudence sont des aptitudes qui ont une valeur propre. En identifiant la norme extravertie comme une construction culturelle plutôt que comme une exigence naturelle, elle rend possible une évaluation plus juste des tempéraments et des modes de contribution. Deuxièmement, introversion ne signifie ni timidité ni incapacité à créer des liens. Un apport important de la force des discrets est de clarifier des notions souvent amalgamées. Introversion et extraversion renvoient principalement à une manière de réagir à la stimulation et de restaurer son énergie. Beaucoup de personnes introverties apprécient les relations, les échanges intenses et la prise de parole. Mais elles peuvent avoir besoin de calme et de solitude, après une exposition sociale prolongée. La timidité, elle, est liée plus directement à la crainte du jugement social. Une personne peut donc être introvertie sans être timide, ou sociable tout en ayant besoin de temps seul. Cette distinction évite deux erreurs opposées, pathologiser le goût de la solitude et supposer que tout inconfort social se résout par davantage de sociabilité. Cain souligne aussi que les tempéraments se situent sur un continuum et que les contextes modifient les comportements. Le problème survient lorsque la préférence pour les environnements peu stimulants est interprétée comme un manque de volonté ou une insuffisance. Comprendre ces différences permet de mieux ajuster attentes et méthodes de travail. Cela aide également les proches à respecter le besoin de retrait sans le traiter comme un refus de la relation. Le livre plaide ainsi pour une lecture plus précise des personnalités, loin des étiquettes simplificatrices. Troisièmement, le travail collectif gagne à préserver des temps de réflexion individuelle. Cain met en question la croyance selon laquelle le travail de groupe constitue toujours la voie la plus efficace vers innovation et décision. Elle observe que les bureaux ouverts, les remue-ménages et les réunions fréquentes peuvent favoriser les personnes qui pensent à voix haute, tout en pénalisant celles qui ont besoin de réfléchir avant de formuler une idée. La critique ne vise pas toute coopération. Elle porte sur une organisation qui transforme le collectif en norme exclusive et qui laisse peu de place à la concentration. Dans un groupe, les participants peuvent suivre les avis dominants, craindre de paraître hésitants ou subir la présence de membres plus affirmés. Le volume de parole risque alors de remplacer la qualité de l'examen. Le livre invite donc à articuler plutôt que opposer deux séquences travail solitaire pour approfondir, puis échange structuré pour confronter les perspectives. Des temps de préparation, des contributions écrites et des réunions où chacun peut intervenir peuvent réduire les biais de domination sociale. Cette analyse vaut aussi pour école, où apprentissage coopératif ne devrait pas effacer les besoins de concentration individuelle. En défendant le droit à la solitude productive, Cain propose moins un retrait du collectif que des conditions de collaboration plus équilibrées et plus propices à la pensée autonome. Quatrièmement, le leadership discret conteste le mythe du chef toujours charismatique. Dans les organisations, le livre examine la préférence répandue pour des dirigeants expansifs. Rapide à décider et capable de mobiliser une salle. Cain rappelle que charisme et efficacité ne se recouvrent pas automatiquement. Un responsable calme peut écouter plus attentivement les personnes compétentes. Examiner les informations contradictoires et créer un cadre dans lequel les collaborateurs prennent des initiatives. Cette idée est particulièrement pertinente lorsque les équipes possèdent une expertise que le dirigeant ne peut pas remplacer par son assurance. Le leadership discret ne se réduit donc pas à une absence de présence, il repose sur une influence moins théâtrale, souvent exercée par la préparation, la constance et la qualité des décisions. Le livre montre aussi le risque de surévaluer les profils confiants, notamment dans des secteurs où prise de risque et communication persuasive sont valorisées. Une organisation peut alors confondre audace apparente et discernement. Toutefois, Cain ne prétend pas que tous les introvertis sont de bons dirigeants ni que les extravertis échouent à diriger. Son argument est institutionnel, les critères de sélection doivent considérer plusieurs styles de leadership. Reconnaître ce pluralisme aide les entreprises à choisir des responsables selon les exigences réelles du poste plutôt que selon une image sociale étroite du chef idéal. En dernier lieu, accompagner les introvertis sans les enfermer dans une identité de retrait. La dimension pratique de la force des discrets concerne autant les adultes que les enfants. Cain recommande de ne pas forcer une personne introvertie à adopter en permanence les codes les plus expansifs de son entourage, pour un enfant. Cela implique de respecter la période nécessaire pour observer une situation nouvelle, tout en encourageant progressivement les expériences qui correspondent à ses intérêts. Le but n'est pas de protéger de toute difficulté, mais de distinguer un besoin légitime de récupération d'un évitement qui limite la vie quotidienne. Chez adultes, le livre valorise la préparation avant une réunion, la recherche de relations profondes plutôt que nombreuses et aménagement de moments de calme. Il aborde aussi la possibilité pour un introverti de sortir ponctuellement de sa zone habituelle afin de défendre un projet ou une valeur importante. Cette idée évite une lecture passive du tempérament, connaître ses limites aide à agir de façon intentionnelle, non à se résigner. Pour les parents, enseignants et managers, la leçon est comparable. Il convient de créer des occasions de participation adaptées sans réduire les personnes discrètes à leur silence. Un environnement inclusif reconnaît que la participation peut prendre la forme d'une observation fine, d'une contribution écrite, d'une écoute active ou d'une intervention préparée. En conclusion, la force des discrets s'adresse en premier lieu aux personnes qui se reconnaissent dans un tempérament introverti et cherchent un cadre sérieux pour interpréter leur décalage avec les injonctions à la sociabilité. Il intéressera également les parents, enseignants, responsables d'équipe et recruteurs, car il invite à revoir des pratiques ordinaires qui favorisent indûment les voix les plus présentes. Le bénéfice principal du livre est de fournir un vocabulaire et une grille de lecture permettant de différencier besoins de solitude, sensibilité à la stimulation, timidité et manque de compétences sociales. Cette clarification peut conduire à des choix plus adaptés dans l'organisation du travail, des apprentissages et des relations. Par rapport à de nombreux ouvrages de développement personnel centrés sur l'affirmation de soi ou la performance relationnelle, Cain propose une enquête culturelle et psychologique plus large. Elle ne promet pas de transformer les introvertis en extravertis, ni de faire de la discrétion une recette universelle. Sa singularité réside dans la critique documentée de normes collectives qui confondent expressivité et mérite, ainsi que dans sa défense de aménagements concrets pour divers styles de fonctionnement. Certaines généralisations entre introversion et extraversion appellent naturellement à être lues avec nuance, puisque les personnalités et les contextes sont variés. Mais le livre demeure une référence accessible pour penser la place de la réflexion, de la solitude et de l'écoute dans une culture de l'attention permanente. Si vous souhaitez soutenir Susan Cain, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.